Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Jacques Munier.
Au sommaire des enjeux, aujourd'hui une question, les talibans ont-ils les moyens de faire souffrir l'Amérique comme ils l'ont promis ?
Oui, c'est ce dont ils ont menacé les États-Unis pour les punir de s'être retirés précipitamment des discussions en cours depuis plusieurs semaines, discussions américano-talibanes et non américano-afghanes puisque le pouvoir en place à Kaboul en était exclu. Donald Trump a donc, sur un de ses coups de sang dont il a l'habitude, décidé de mettre fin à ce dialogue qui devait engager chaque camp sur de bonnes résolutions après le départ des troupes américaines du pays. Il faut dire que pendant tout le temps qu'ont duré ces négociations menées à Doha au Qatar, des attentats ont continué à viser sur le terrain les troupes occidentales. Bonjour Adam Bachko.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheur associé à l'université Panthéon-Sorbonne, spécialiste de l'Afghanistan. Adam Bachko, les attentats commis tout au long des négociations, dont le dernier en date jeudi dernier à Kaboul, ont-ils été commandités, ont-ils été diligentés par ces mêmes talibans assis à la table avec les Américains ? Est-ce que c'est les mêmes ?
Oui, tout à fait. Hein. Les talibans sont un mouvement qui est à la fois unitaire, organisé. Hein. On a longtemps considéré à tort ce mouvement comme fragmenté, et c'est bien le même mouvement qui avait comme stratégie de mener la guerre aussi durement que possible pour progresser sur le terrain et en même temps de mener des négociations dans le but d'accélérer un retrait américain qui serait à leur avantage.
Est-ce que ça veut dire que les négociateurs talibans et les responsables sont complètement légitimes auprès de tous les talibans d'Afghanistan, notamment quand ils prennent l'engagement de ne pas abriter de groupes djihadistes après le retrait des Américains ? Ça n'a pas créé de dissension ?
Ça en a créé très marginalement, mais ce qu'on a vu dans le passé, c'est que les talibans sont relativement aptes à assurer la discipline dans leur rang. Hein. C'est un mouvement qui n'a pas hésité à utiliser la force quand des commandants talibans ont refusé d'obéir à leur hiérarchie. Et donc, si on ne pouvait pas prédire les résultats de ce que le commandement taliban aurait fait, une chose est certaine, c'est que les talibans ont cette capacité à se faire obéir par leurs commandants sur le terrain.
Quand ils menacent de faire souffrir l'Amérique, en ont-ils les forces aujourd'hui ? Comment comptent-ils s'y prendre puisque les soldats américains vont se retirer ?
Non, la formule est largement grandiloquente. Hein. Bien sûr, les talibans n'ont pas les moyens de faire souffrir l'Amérique et les talibans sont habitués à ce genre de formule excessive. Ce que les talibans ont les moyens de faire, c'est de progresser militairement en Afghanistan, hein, et de progresser aux dépens du gouvernement qui est soutenu par les États-Unis. C'est vraiment la seule chose qu'ils ont les moyens de faire, mais ça, ils ont les moyens de le faire.
Progresser où alors, en l'occurrence ? Où sont leurs cibles ? Où est-ce qu'ils ont envie de s'implanter davantage ?
Leur but est de prendre Kaboul et depuis 3-4 ans, les talibans progressent sur le terrain. Hein, dans les zones rurales afghanes, on l'entend moins parce qu'il y a moins de correspondants de presse, parce qu'il y a moins d'organisations internationales dans les campagnes afghanes. Mais en fait, les talibans progressent et leur but, c'est de prendre des villes. Et à terme, leur but, c'est de prendre Kaboul.
Est-ce qu'on sait combien ils sont aujourd'hui, le nombre de combattants sur lesquels les talibans peuvent compter aujourd'hui ? L'administration américaine n'en comptait qu'un millier en 2004. On est 15 ans plus tard.
Les chiffres ont toujours été très contestés, très approximatifs. On savait qu'ils sont devenus quelques dizaines de milliers. Il ne serait pas étonnant qu'ils ne soient pas très loin d'une centaine de milliers de combattants sur l'ensemble du pays, mais c'est des chiffres qui sont évidemment très difficiles à vérifier. Hein. Quelques dizaines de milliers de combattants est un très grand minimum, une centaine de milliers de combattants un maximum, mais donc c'est un appareil qui est capable vraiment d'organiser des attaques. Ils ont des forces spéciales, plus entraînées, qui tournent entre les différentes régions du pays. Ils ont des groupes spéciaux, ils ont une capacité de mener des attaques simultanées. Enfin, c'est maintenant un appareil militaire qui, s'il n'y avait pas la couverture aérienne de l'Air Force américaine et des troupes occidentales qui régulièrement ont dû intervenir pour sauver l'armée afghane, serait capable de prendre une grande partie des villes, voire de faire tomber l'appareil sécuritaire de Kaboul.
Adam Bachko, est-ce que les talibans ont changé depuis 2001 ? En 18 ans, ils ont vieilli, d'accord ? Ou alors ils ont rajeuni si les plus anciens ont déjà été remplacés dans leur idéologie, mais surtout dans leur stratégie ? Qu'est-ce qui a pu changer en 18 ans ?
Oui, ils ont changé. Alors, il faut pas se leurrer. Hein. Ils sont pas devenus ce qu'on voudrait qu'ils soient. Mais là où ils ont vraiment changé, et c'est étonnant à voir, c'est à quel point ils ont entendu la nécessité de se faire reconnaître sur le plan international. Hein. On l'a vu pendant ces négociations. Et donc, c'est un groupe qui est capable aujourd'hui de prendre en compte ce qui l'un de leurs objectifs centraux est vraiment d'obtenir la reconnaissance internationale, le siège à l'ONU de l'Afghanistan, si un jour ils prennent Kaboul. Et donc, pour ça, ils sont prêts à faire beaucoup de choses. à se faire reconnaître, à discuter avec les Nations Unies, dont ils ont été un interlocuteur régulier, à se présenter, bien que leurs mesures sur les droits des femmes soient sinon limitées, voire quasi nulles, à se présenter comme des défenseurs des droits des femmes.
En mettant en avant quel
tout un discours.
En mettant en avant quelle mesure ou quel fait pour se targuer d'avoir fait avancer le droit des femmes.
Alors, de leur point de vue, hein, bien sûr, on parle bien de ce que eux prétendent faire.
Bien sûr.
Ils ont régulièrement mis en avant que c'est eux qui protègent réellement l'intégrité physique des femmes afghanes et non pas les troupes occidentales et non pas le régime de Kaboul qui mettrait à bas l'intégrité physique et morale des femmes afghanes. Et ils ont tout un discours sur la défense morale de la société afghane qui inclut les femmes. Et ce discours-là, qui évidemment ne tient pas la route si on s'arrête sur leur bilan en termes de droits de l'homme, est un discours qui, pour eux, leur permet de se mettre en avant comme un mouvement qui s'efforcerait de respecter le droit international.
Alors si j'insiste un peu sur cette question, c'est parce qu'en 2001, on parlait beaucoup et surtout de ce qu'ils imposaient les talibans aux femmes et aux petites filles dès le plus jeune âge en s'opposant à l'éducation des filles. Et le chercheur Didier Chaudet, tout récemment dans un article paru dans The Conversation, dit qu'aujourd'hui les talibans préfèrent contrôler l'éducation des filles plutôt que l'interdire et qu'ils cooptent les écoles financées par Kaboul.
Tout à fait, ils font ça. Alors en fait, ça n'est pas nouveau. Hein. Ils faisaient déjà ça dans les années 90, c'est-à-dire qu'ils interdisent l'école, ils interdisaient l'école en général à partir de la puberté, 10, 11, 12 ans. Ils continuent de faire des mesures de ce type-là, voire parfois laissent des écoles, des filles plus âgées aller à l'école. Ce qu'ils font néanmoins, c'est qu'ils changent les programmes. Ils s'assurent que les cours d'anglais s'arrêtent et que des cours de religion, que certains cours qui sont considérés non musulmans, non contraires à leur vision très rigoriste hein, de la foi, ne sont pas donnés dans les écoles.
Est-ce qu'ils ont une vraie volonté de montrer ce qu'ils veulent et ce qu'ils savent faire, disons politiquement? Ils ont encore des Afghans à convaincre, y compris au sein de la population pachtoune dont ils sont issus.
Oui, c'est un mouvement qui ne fait pas du tout consensus en Afghanistan, loin de là. Hein. C'est un mouvement, par exemple, qui dans les villes, et il faut bien comprendre qu'en Afghanistan, aujourd'hui, les urbains sont majoritaires. Hein. C'est un pays majoritairement urbain, contrairement à l'image qu'on en a. Les talibans sont très impopulaires. Les talibans ne gagneraient jamais une élection, et d'ailleurs, les talibans ne participeront jamais à une élection, car leur seul moyen de prendre le pouvoir est militaire, et donc c'est un mouvement qui quelque part, n'a aucune capacité à prendre le pouvoir à travers un soutien populaire. C'est un mouvement qui vise vraiment à prendre le pouvoir à travers les armes, ce qui est vraiment une possibilité qu'ils ont dans les années suivantes. Et ils savent très bien que s'ils sont au pouvoir, le fait que la majorité de la population ne veut pas d'eux ne changera rien au fait qu'ils seront au pouvoir.
Voilà pourquoi quiconque participera à la présidentielle prévue pour le 28 septembre, mais rien n'est moins sûr en Afghanistan sur cette question, mais il les menace de mort, tous ceux qui participeront à cette présidentielle. Les talibans aujourd'hui ne sont pas du tout inclus dans le jeu politique, n'ont pas le droit de présenter des candidats et a priori, je ne sais pas, n'en ont peut-être pas l'intention, mais y a-t-il en Afghanistan, au sein du gouvernement, des voix pour dire qu'il faut ne serait-ce que songer à leur donner une place?
Oui, mais le problème, c'est que ces voix ont beaucoup de voix, même à l'intérieur du gouvernement, proposent des modalités de négociation. Le problème, c'est que les multiples acteurs du gouvernement qui le font sont assez mal coordonnés, en conflit les unes contre les autres. Hein. On a un paradoxe d'une unité du mouvement taliban et d'une désunité du gouvernement, d'une fragmentation du gouvernement. Et par ailleurs, le recul constant du gouvernement sur le terrain a pour effet d'affaiblir la main des négociateurs du côté du gouvernement si jamais ils voulaient faire des négociations, les talibans apparaissant maintenant à la fois comme l'acteur qui a obtenu une légitimité internationale à cause des États-Unis et l'acteur qui progresse militairement sur le terrain.
Et justement, est-ce que cette suspension des négociations à l'initiative des États-Unis peut redonner de la force et de la légitimité aux autorités afghanes qui avaient été exclues du processus?
Il me semble que c'est plutôt l'inverse, malheureusement, car la rupture des négociations ne s'est pas faite sur les talibans ne respectant pas la structure de la négociation, mais bien sur les États-Unis décidant arbitrairement de ne pas suivre une mesure qu'ils ont eux-mêmes proposée. Hein. Toutes les mesures qui donnaient une légitimité extraordinaire aux talibans, les invitaient à Camp David, hein, comme les plus grands dirigeants de ce monde.
Eh bien, nous vous avons perdu, Adam Bachko. Donc, nous n'aurons pas le fin mot de cette histoire. Mais écoutez, il est 6h56. J'allais de toute façon vous remercier et vous dire au revoir. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Et à très bientôt.